Alors aujourd'hui, nous fêtons l'Ascension. L'Ascension fait référence à un épisode que l'on trouve dans la Bible. Le texte raconte que Jésus a été enlevé par Dieu de la terre vers le ciel et qu'il a disparu derrière un nuage. Alors c'est assez difficile à concevoir matériellement. On voit mal un corps s'élever au ciel comme une fusée pour aller où ? Derrière Saturne ou Andromède. Mais la signification de cette montée est claire. En effet, quand nous disons le Notre Père, cette prière où Jésus nous appelle, nous apprend à appeler Dieu notre Père qui est aux cieux, nous savons bien que pour joindre Dieu, nous n'avons pas besoin de prendre une fusée. Au contraire, cette prière du Notre Père nous dit que Dieu est infiniment proche de nous, qu'il est même en nous, dans le secret de notre espace intérieur. Car la notion de ciel dans la Bible désigne le monde spirituel dans lequel Dieu évolue, à distinguer de la terre qui évoque le domaine matériel où existe notre corps. Cherchons donc ce que veut nous dire ce texte de l'Ascension, car il nous parle d'une chose qui nous concerne, du salut que nous apporte le Christ à nous qui n'avons plus Jésus-Christ en chair et en os à nos côtés. Dans ce récit de l'Ascension, nous avons vraiment une bonne nouvelle à recevoir maintenant, une espérance, une force pour avancer, une place qui nous est réservée sur cette terre et une vocation. Alors je vous propose d'entendre maintenant la lecture de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 4 à 11. Comme Jésus se trouvait avec ses apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et un nuage le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous ainsi à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voici devant toi avec espérance. Permets que dans ce témoignage ancien qui est conservé dans la Bible, nous puissions chacun recevoir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui, à chacun en particulier. Une nourriture pour notre foi, une ouverture pour notre espérance et un amour vrai pour animer nos pensées, nos paroles et nos actes.
Thank you.
La dernière chose que les disciples donc demandent à Jésus, c'est ceci. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et les disciples attendent donc une intervention directe de Dieu pour améliorer le monde, pour guérir ce qui ne va pas. Et il y a bien sûr des choses qui ne vont pas dans ce monde, et comme ses disciples, nous nous demandons souvent, quand est-ce que Dieu enlèvera enfin le mal? Quand est-ce qu'il enlèvera la souffrance sur la terre? Quand est-ce qu'il arrangera enfin mes ennuis à moi et qu'il mettra fin aussi à la violence, à la guerre, au cancer, au tremblement de terre? Et cette préoccupation est bonne, bien sûr. Il y a tant de mal et de souffrance qui nous indignent que notre prière est souvent la même que celle de ses disciples. Mon Dieu, que ton règne vienne. On peut donc dire que les disciples de Jésus ont au moins compris cela. Dieu n'est source que de bien pour le monde. Ce n'est pas lui qui crée la souffrance, ni pour nous punir, ni pour nous tester, bien sûr. Après avoir vu vivre Jésus, après l'avoir entendu parler, ils en sont certains. Dieu est la source d'espérance pour le monde et pour eux, pour nous. Mais si Dieu est une telle source de bonheur et de vie, comment est-ce qu'il y a encore tant de mal qui subsiste dans le monde? Eh bien, cette question est bonne. Il existe de nombreuses réponses possibles, mais Jésus ici répond à cette question légitime d'une façon intelligente et nuancée. Il apporte en fait deux réponses, deux points essentiels de réponse. D'abord, et c'est sa première réponse, c'est une question de temps. Même Dieu ne peut pas faire pousser un chêne centenaire en 0 seconde, comme on voit Astérix le faire dans une bande dessinée assez réussie. Dieu est une prodigieuse source d'évolution, mais toute évolution prend du temps, bien sûr. Donc Dieu n'est pas indifférent à la souffrance du monde, à notre souffrance, il y travaille. Et la Bible nous dit que la création tout entière est encore en évolution. Alors c'est vrai qu'il reste encore du chaos, oui, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, et il est bon de prier comme les disciples, dans la confiance que Dieu y travaille et qu'il y travaille certainement au mieux. Même si nous ne savons rien, effectivement, du temps qu'il faut à Dieu pour faire avancer le bien dans le monde. La seconde réponse que Jésus apporte ici à la question de l'existence du mal dans ce monde, c'est nous-mêmes, malheureusement. Comme les disciples, il nous arrive d'attendre avec impatience que Dieu fasse triompher le bien dans le monde, mais nous attendons trop souvent cela en disant « que fait le gouvernement ?» ou bien « c'est la faute à machin ?» ou bien « yaka ?» et tout en restant bien tranquillement, les bras croisés, sans lever le moindre petit doigt pour faire avancer les choses, et même bien souvent en empirant les choses, en faisant le mal, en faisant du mal. Par contre, oui, Dieu est bon. Il est totalement engagé dans la lutte pour le bien. Il est la source d'une prodigieuse source d'évolution dans l'univers qui se développe progressivement. Mais cette évolution, nous dit Jésus, elle doit passer également par nous. Pour deux raisons. Pour que nous puissions nous-mêmes d'abord évoluer, progresser, mais que nous puissions aussi même faire avancer les choses à notre mesure. Et c'est cela que Dieu espère, et c'est cela qu'il nous offre, car en fait c'est cela que l'on appelle parfois le Saint-Esprit dans la Bible. C'est l'action de Dieu pour nous faire évoluer et pour que nous soyons nous-mêmes une source d'évolution positive à notre mesure. Mais même Dieu ne peut pas nous forcer à être meilleurs si nous ne le voulons pas. Il ne peut pas nous forcer, bien sûr, à aimer si nous ne le voulons pas, ni à respecter. Il ne peut pas nous forcer à avancer, ni à créer de belles choses si nous voulons rester là sans rien faire. Alors oui, nous prions, « Notre Père qui es dans les cieux, que ta volonté soit faite que ton règne progresse de jour en jour. Amen. Christ est donc enlevé au ciel, son corps n'est plus là, et les disciples gardent les yeux fixés dans cette direction, concentrés sur leur souvenir de cet homme, Jésus, qui arrivait à leur faire aimer Dieu et leur faire aimer les gens, qui leur faisait aimer la vie et qui leur faisait espérer que le bien progresse. Jésus n'est plus là, il n'est plus à leur côté. Mais les disciples ont confiance. Dieu, ce Dieu qu'a montré Jésus, ne peut pas les abandonner. Et ils attendent, totalement concentrés dans la prière. Alors, dans un sens, c'est bien, mais ils n'ont pas tout compris et on les voit là comme bloqués dans leur prière. Encore une fois, Dieu tente de les remettre en chemin. Pourquoi vous arrêtez-vous ainsi à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors en quoi est-ce que cette réponse peut nous aider à recevoir aujourd'hui ce que Dieu nous donne pour avancer ? Remarquons d'abord que le texte original en grec ne dit pas que le Christ reviendra, mais qu'il viendra. Et cela montre qu'il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais d'une nouvelle forme de sa présence. Le Christ a vécu, oui, en Jésus de Nazareth, il y a 2000 ans environ. Maintenant, ça, c'est fini. Maintenant, le Christ est au ciel, il est une réalité spirituelle, mais il viendra, nous dit le texte. Il viendra dans notre vie présente. Nous n'avons donc pas à fuir ce monde dans la prière totale pour recevoir le Christ. Et le texte précise, il viendra comme ils l'ont vu aller au ciel. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, il nous suffit donc de repasser à l'envers le film de cette histoire. Le Christ est allé au ciel, il viendra donc du ciel. Il vient maintenant dans notre dimension spirituelle. Il vient de notre foi, de notre prière. Et les disciples, donc, n'avaient pas complètement tort, bien sûr, sur ce point. Il vient de là, de la dimension spirituelle. Mais où arrive-t-il ? Il arrive là où Jésus était au début du récit. Le Christ est au milieu de ses disciples qui lui posent des questions. Et donc le Christ, il revient au milieu de ses disciples, au-dedans de ses disciples qui se posent des questions. C'est donc là que le salut est donné. C'est là que le Christ demeure maintenant. Il est en chacun de nous quand nous interrogeons le Christ sur le salut que Dieu veut nous apporter, qu'il veut pour le monde. Le Christ demeure en chacun de nous comme l'Esprit sera donné individuellement à chacun des disciples à la Pentecôte. Mais aucun d'entre nous n'est la totalité du Christ, bien sûr, et donc interroger le Christ, c'est, oui d'accord, prier et réfléchir soi-même, mais c'est aussi se rassembler, comme on le voit faire les disciples au début de ce texte, pour s'interroger mutuellement, pour débattre de nos points de vue différents, et c'est aussi se laisser rassembler par ce Christ qui nous anime. C'est comme cela que nous avancerons, nous dit ce texte. Le salut que Dieu donne par son esprit est donc à la fois très, très individuel, très intime, comme un souffle qui nous anime, comme un cœur qui nous donne d'aimer et d'espérer. Mais le salut de Dieu est également dans la richesse de nos personnalités différentes, de nos théologies, de nos histoires différentes qui se rencontrent, qui débattent. Dieu, par son esprit, nous rassemble en un corps vivant en ce monde. Et donc le corps du Christ, dont nous sommes les membres, chacun est irremplaçable dans ce corps et béni par Dieu. Et maintenant, ce sont nos mains qui sont les mains du Christ qui peuvent servir les autres. Ce sont nos bouches qui peuvent annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu annoncé par Jésus-Christ. Ce sont nos yeux et nos cœurs qui peuvent reconnaître les autres, leur grandeur et leur soif de salut. Et c'est notre foi, la foi du Christ, qui nous relie à Dieu, à notre prochain et à nous-mêmes en vérité. Oui, éternel mon Dieu, nous attendons ton esprit avec reconnaissance. Amen.